Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine dans cette émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Vous pouvez nous appeler en direct, composer le 001 202 619 31 40. Vous pouvez également laisser vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. 1 900 000 fans, merci à vous. On va présenter nos intervenants ce soir, nos consultants habituels, Élisée Oumpatine à Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir Nicolas et bienvenue au Bénin.
Allez, on va saluer un petit nouveau dans la bande. Hein. Il nous vient de Casablanca, Radio Mars. C'est Amine Birouk, notre confrère marocain. Bonsoir Amine.
Hola, bienvenue au Maroc.
Alors on va me faire signer. Est-ce qu'on a Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa? On va essayer de le rappeler dans quelques instants. Merci à tous de nous suivre évidemment sur internet, sur voaafrique.com. On va parler évidemment de la finale de la Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe qui s'est qualifié pour sa 10e finale en compétition africaine en éliminant à Kamalondo l'étoile sportive du Sahel. Les Congolais et les Tunisiens pourtant n'ont fait que match nul 0-0 à Lubumbashi. Oui, mais voilà, on se souvient que les Congolais avaient réussi le match nul, un but partout au stade olympique de Sousse en Tunisie, et grâce à la règle du but à l'extérieur, ce sont donc les Corbeaux qui se sont qualifiés. Avant de vous entendre, messieurs, on va écouter Hubert Velude, l'entraîneur des Corbeaux. Il est interrogé au micro de Top Congo FM.
Même si je ne suis pas trop satisfait de la première mi-temps où on avait un peu le frein à main, on était un peu, je sais pas, il y a un peu de crispation, on a eu du mal à se libérer dans le jeu. On n'a pas pu jouer comme on voulait, on a allongé beaucoup. Donc il fallait absolument se libérer plus dans le jeu. Ce que la deuxième mi-temps nous a donné l'occasion de faire, on était beaucoup mieux dans le jeu en deuxième mi-temps. Dieu merci, même si l'entraîneur adverse vient de le dire, ils ont laissé plus d'espace en deuxième mi-temps. Mais quand même, nous, on a fait une meilleure deuxième mi-temps. Bon, après, ça jouait peu de choses. Moi, je savais que ça allait être comme ça contre l'étoile, hein, ces deux équipes de la même valeur. On a vu deux grosses occasions de chaque côté. Nous avec Kalaba et eux aussi avec l'avancement brésilien qui est rentré. Donc après, ça joue à peu de choses. Il faut rester équilibré défensivement tout le match, ce qu'on a eu l'occasion de faire en fin de match, mais on n'a pas été encore assez efficace en fin de match. On doit marquer ce but qui nous libère complètement et peut-être même deux buts. Il faut, je dirais que sur l'ensemble des deux matchs, le nombre d'occasions de but, on marque un but en deux fois 95 minutes, c'est insuffisant au vu du nombre d'occasions de but, quoi. Mais le plus important, c'est de passer. C'est le plus important, c'est aussi l'esprit qu'on a mis dans les deux matchs. On a été très combatifs dans les deux matchs. On a maîtrisé beaucoup de choses dans les deux matchs. On ne s'est jamais affolé contre une bonne équipe.
C'était Hubert Velude, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe. Élisée Oumpatine, évidemment, vous êtes avec nous hein, depuis le Bénin. Les Corbeaux qui font le métier, les Corbeaux qui affronteront le Mouloudia Olympique de Béjaïa lors de la finale. On aura cette jeune équipe algérienne contre les Congolais. Léger avantage, évidemment, aux Congolais, hein, leur grande expérience sur la scène internationale. Hein.
Oui, Nicolas, et loin de là, il faut dire que lors de la phase de poule, les deux équipes se sont affrontées à deux reprises. Hein, et ouais. Le tout-puissant Mazembe qui a réussi à se défaire de ces Algériens grâce à Kalaba. C'est vrai que deux matchs ne se ressemblent à un point. Et cette maigre victoire donne un avantage psychologique. Hein, il faut dire que, puisque Mazembe a terminé à la tête avec 13 points, vous l'avez dit, l'expérience à ce niveau de la compétition sera par contre un réel avantage pour le tout-puissant Mazembe. Le club a déjà remporté 5 Ligues des Champions et sur 7 finales disputées. Et n'oublions pas hein, que les Corbeaux sont les tenants du titre. Ils ont fait le doublé, ils ont remporté le championnat, la Lina Foot, hein, même si la formule est souvent décriée du côté de Kinshasa. Thierry Kambundi aura le temps de vous expliquer. Maintenant, les Corbeaux, avec à sa tête un certain Hubert Velude qui n'a pas du tout la main sur l'équipe dès l'entame de la saison, puisque c'est ce qui a valu l'élimination en Ligue des Champions. Maintenant, avec un peu de temps, avec le temps maximum qu'il a eu à la tête de cette équipe, il a eu le temps de connaître des joueurs. C'est vrai qu'il a eu le privilège de mettre sur le banc de touche un certain Joël Kimwaki, le capitaine emblématique de cette équipe, à la place d'un certain Lundama. Donc c'est-à-dire que avec le temps, Hubert Velude a su conquérir un groupe serein qui pourra quand même chercher un titre. Maintenant, quant au Mobija, c'est la première fois que le club algérien arrive à ce stade d'une compétition africaine. Un parcours même toutefois assez incroyable hein, pour les Béjawa, car c'est la première participation d'un club, de ce club-là à une Coupe d'Afrique des clubs.
Élisée.
Donc c'est dit que ça va être une très belle affiche, et selon moi.
Justement, on va parler évidemment de l'autre demi-finale, hein, le FUS de Rabat contre l'EMO Béjaïa. Match nul, un but partout, évidemment. Un score, là encore, qui favorise l'équipe qui a réussi à marquer ce but à l'extérieur. Amine, là encore, hein, belle participation. Hein, Béjaïa qui n'en finit pas d'étonner. Déjà cette qualification pour la Coupe continentale. Et maintenant, évidemment, cette finale contre le tout-puissant Mazembe.
Oui, c'est un scénario incroyable qui s'est passé hier à Rabat. L'équipe du FUS de Rabat a poussé. Elle a eu du mal à se créer des occasions, à faire des décalages, à pouvoir donner une sensation de danger. Et lorsqu'il est arrivé à trouver l'ouverture à quasiment 17 minutes de la fin, de manière inexplicable, elle a donné le ballon, le terrain à l'équipe algérienne qui a égalisé de manière cruelle à la 91e minute de jeu. Autant dire que c'est une sorte de douche écossaise pour l'équipe du FUS de Rabat qui était avec dans la mesure où le Mouloudia de Béjaïa avait réussi un parcours incroyable, que ce soit en Champions League où elle avait été difficilement éliminée par le Zamalek, futur finaliste de la compétition, ou encore pour accéder à la phase de poule puisqu'elle avait dû se débarrasser de l'Espérance de Tunis avant de réaliser un parcours assez équilibré en phase de poule qui lui a valu une place en demi-finale. Cette équipe a un point fort, c'est une bonne organisation défensive, c'est un coach qui Sanjak, qui connaît un peu les rouages du football africain et surtout qui a la main sur son groupe. Et aujourd'hui, c'est une bien belle satisfaction pour le Mouloudia de Béjaïa. On peut dire que côté marocain, il y a eu une énorme déception parce que beaucoup misaient sur une possible qualification du FUS qui se voyait déjà bien beau, qui voulait peut-être répéter son exploit qui lui avait valu de gagner cette Coupe de la CAF en 2010 contre vent et marée.
Merci Amine. On retrouve Thierry Kambundji Kafouti de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa. Bonsoir Thierry. Thierry, est-ce que vous nous entendez à Kinshasa ? Non, visiblement, problème avec la ligne hein, pour la République démocratique du Congo. Amine, on va rester avec vous. Hein, on va continuer à parler, évidemment, de ces compétitions continentales, puisque dans l'autre grande compétition, la Ligue africaine des champions, hein, on a évidemment cette finale, là encore assez inédite, finalement, entre d'une part le Zamalek et les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns. Là encore, le Zamalek, on connaît hein, son histoire, et pourtant, depuis 2002, hein, rien dans la besace des Égyptiens. Hein.
Rien dans la besace des Égyptiens, ça remontait à 2002, l'année où ils avaient battu le Raja de Casablanca en finale. Il y a une longue attente, parce que paradoxalement, au même moment, le grand rival, l'Allier, le National du Caire, avait trusté les titres pendant une bonne partie de cette décennie, ce qui vaut aux Amalek aujourd'hui une obligation d'aller gagner ce titre et de satisfaire des millions de supporters au Caire. Samedi, on a assisté quasiment à un retournement de situation. On était resté sur une équipe du Wydad de Casablanca, archi-dominée au match aller, 4-0, bien malheureuse avec des décisions qui ont été prises avec le départ de l'entraîneur Tochak et son remplacement par le binôme constitué par Sébastien De Sabre, provisoirement directeur sportif, et Mohamed Sahil. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mayonnaise a bien pris, puisque à un moment du match, à 25 minutes du match, le score était de 5-1 en faveur du Wydad de Casablanca, et on était plus proche de l'exploit côté marocain que de la qualification du Zamalek. Le Zamalek a géré avec un peu plus d'expérience, un peu plus de métier en toute fin de rencontre, et ça vaut au Zamalek aujourd'hui d'être présent en finale face à une équipe du Mamelodi Sundowns qui a eu un parcours plus convaincant que le Zamalek tout au long de la compétition, avec un effectif constitué de nombreux internationaux sud-africains, des moyens financiers, et surtout dans une position qui s'y émerveille à l'équipe sud-africaine, celle de l'outsider. L'attente est bien plus grande, la pression sera bien plus grande du côté du Caire.
Merci beaucoup Amine, on va prendre un premier appel d'un auditeur, Carlos Condo, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous voulez revenir évidemment sur cette nouvelle qualification pour une finale continentale du tout-puissant Mazembe. Hein.
Oui, en tout cas, c'est une équipe qui nous fait très plaisir à nous, Congolais. Et bravo à Écoute Chapeau.
Ouais, qu'est-ce qui vous séduit dans le jeu des corbeaux finalement ?
Pardon ?
Qu'est-ce qui vous séduit dans le jeu des corbeaux finalement ?
Ah oui, c'est le fait qu'ils ont été éliminés en Ligue des Champions et on a beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, les voilà en finale de la Coupe des Confédérations. Donc, c'est une équipe très forte, solide mentalement. Et en tout cas, ils l'ont prouvé. Ils sont en finale et on leur souhaite toutes les bonnes chances pour pouvoir garder cette finale.
Merci beaucoup, hein, Carlos, de nous avoir appelé. On va tenter une dernière fois désespérément la connexion avec Thierry Kambundi, Top Congo FM. Thierry, est-ce que vous nous entendez à Kinshasa ?
Je vous entends, 5-5, Nicolas.
Ah, bip bip, là, c'est la joie. La foule se lève dans le studio. Le stade est en délire. Thierry Kambundi est enfin avec nous en ligne. Alors, Thierry, on revient évidemment avec vous sur cette qualification que vous avez suivie à Kinshasa, hein, un peu de loin pour Lubumbashi. Cette qualification des Corbeaux. Hein.
Cette qualification pour une 5e finale en 8 ans. Hein, c'est statistique. D'une importance assez remarquable pour être soulignée. 5e finale de compétition interclub de la CAF en 8 ans pour le tout-puissant Mazembe en qualification qui n'a pas été facile. Hein. C'est Mazembe à deux visages qu'on a vu hier en première du temps. Un peu. On n'a pas reconnu l'équipe de Mazembe, même l'entraîneur Hubert Velu que vous venez de diffuser l'a dit. C'est en deuxième mi-temps qu'ils ont surpassé, mais ils ont pêché par la maladresse et n'ont pas réussi finalement à trouver la faille face à cette formation de l'école sportive qui détenait encore du CR le trophée de cette Coupe de la Confédération. Mais Mazembe se qualifie à la faveur de prix par Roger Claver à la manche à l'aide de cette Coupe de la Confédération. Ce qui nous donne une finale contre l'équipe de Béjaïa que Mazembe a eu à rencontrer également. Que Mazembe a battu à Cameroun de 1-0 avec le 0 du parti de l'Algérie. Ça fait
Allez, on commence à reperdre un petit peu notre ami Thierry. On va poser la question, merci beaucoup Thierry Kambundi, Top Congo FM à Kinshasa. On va poser la question à Élisée Ongpatine. Élisée, on revient sur le cas des Mamelodi Sundowns, évidemment. Ils disputeront leur deuxième finale hein, de Ligue des Champions après celle perdue en 2011 face à un autre club égyptien, c'était Al Ahly. Le Mamelodi Sundowns avait alors fait match nul un partout à domicile avant de s'incliner 3-0 à l'extérieur. A priori, sur le papier, c'est déséquilibré au niveau expérience, mais peut-être que cette jeune équipe hein, sud-africaine va pouvoir renverser, allez, je vais pas plaire aux supporters égyptiens, mais cette vieille équipe du Zamalek.
C'est possible, hein, Nicolas, puisque on se rappelle, hein, lors de la phase de groupe, hein, les Sud-Africains ont eu deux fois le dessus hein, face aux Égyptiens. Il faut dire que Zamalek est un vieux de la vieille, expérimenté à ce niveau de la compétition. Maintenant, Pissot Moussimane, hein, il fut sélectionneur de Bafana Bafana, est un expérimenté du football africain. Il a battu une équipe, c'est vrai que depuis près de 4 ans, hein, Sundowns domine le championnat sud-africain. C'est vrai que c'est cet état de cause-là qu'on dénonce c'est du côté du championnat sud-africain, puisque c'est un championnat très relevé, mais qui n'arrive pas à soit sa domination sur l'échiquier continental. C'est vrai que cette année, eh bien, Sundowns qui a profité hein, de l'exclusion hein, de l'ASB Club de Kinshasa, qui pourrait avoir lié un joueur qui n'était pas qualifié, et donc il profite bien sûr de la disqualification de, j'allais dire, de l'ASB Club pour prendre part à cette phase de poule. Maintenant, beaucoup vont me dire que le Danemark a su profiter de la disqualification de la Yougoslavie pour remporter, et bien évidemment, l'Euro 92 et on compare déjà aux Sud-Africains. Donc, c'est dire que ce sera une finale ouverte hein, puisque là, Orlando Pirates l'avait déjà remporté en 1995 et Moussimane l'a déjà dit en match de poule. On prendra les matchs les uns après les autres et peut-être qu'en finale, il y aura de l'expérience, mais eux, ils en ont puisqu'ils ont au sein de leur effectif des joueurs expérimentés, le Libérien Lafort et Tau qui a inscrit le second but pour qualifier son équipe. Donc, c'est-à-dire que c'est un groupe qui regorge plusieurs joueurs internationaux, des Ougandais, des Zimbabwéens, des Sud-Africains, pour ne citer ceux-là. Donc, on va citer certainement Nicolas à une très belle affiche hein, qui va mettre aux prises une équipe de Zamalek avec un certain Emmanuel Mayuka qu'on connaît très bien, champion d'Afrique avec la Zambie. Donc, les deux équipes vont nous présenter certainement du bon jeu.
Merci beaucoup, Élisée. Donc, vous penchez plutôt pour les Mamelodi Sundowns ou pour le Zamalek ?
Ça reste une finale ouverte, mais selon moi, vu ce que j'ai remarqué souvent lors des matchs de poule, Sundowns qui a pratiqué un très bon football, c'est vrai que Zamalek n'est pas bien rentré dans la compétition, mais pour avantage légèrement à Sundowns qui a pratiqué un très bon football. Mais n'oublions pas, Zamalek est un expérimenté de cette compétition et rarement les clubs égyptiens perdent souvent quand ils arrivent en finale.
Et Amine, vous, un petit pronostic là, pour cette finale ?
Zamalek nous a déçu face au Wydad de Casablanca lors du match retour. Oui. Elle s'est montrée très fébrile. Elle a failli véritablement être éliminée alors qu'elle avait gagné quand même au match aller 4-0. Ils ont un effectif qui a une rotation limitée puisqu'il n'y a que 17 joueurs qui ont été inscrits sur cette liste pour la Champions League, étant donné qu'il y a eu qu'on est à cheval sur deux saisons en Afrique du Nord et qu'il y a eu beaucoup de recrutements et ces joueurs ne sont pas qualifiés. Donc ça laisse à l'entraîneur égyptien très peu de marge de manœuvre. Il va falloir qu'il fasse un match parfait en Afrique du Sud à l'aller pour bien recevoir au retour et pouvoir peut-être faire la différence. Il y a l'antécédent des deux confrontations en phase de poule en faveur de Mamelodi Sundowns et puis il y a un facteur qui va être très important, c'est celui du manque de pression. Autant du côté du Zamalek, il y a une longue attente, il y a un passé, il y a le prisme ou plutôt la rivalité avec l'Ali qui va les pousser certainement à vivre ce match ou cette double confrontation avec du stress. De l'autre côté, on n'a rien à perdre, on est un peu le néophyte de la compétition, on a été repêché pour pouvoir accéder à la phase de poule après la disqualification de l'AS Vita Club et ça donne une équipe un peu plus décontractée, un peu plus convaincante dans le jeu. On l'a vu encore une fois face à Zesco United, que ce soit au match aller et surtout au match retour où l'équipe de Mamelodi Sundowns a véritablement maîtrisé son sujet. Voilà, l'équipe des Zamalek est un peu plus vieillissante, elle possède des cadres expérimentés, mais est-ce que ces cadres vont résister à un football vif, alerte. Face au Wydad, ils ont subi les coups de boutoir des Casablancais pendant quasiment les 70 premières minutes du match. Et s'il n'y avait pas eu quelques erreurs de défense, s'il n'y avait pas eu surtout le non-match du Wydad de Casablanca à l'aller, ils n'auraient peut-être pas eu l'équipe du Zamalek en finale.
Merci beaucoup, on le comprend, hein, pour nos spécialistes, léger avantage au Mamelodi Sundowns. On suivra ça, évidemment. Ce sera le match aller le 14 octobre en Afrique du Sud. Et vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, c'est Sporama, votre magazine sportif hebdomadaire pour refaire l'actualité sportive africaine. Le grand événement, les grands titres la semaine dernière de la presse, c'était évidemment la fin de la carrière internationale de Yaya Touré, le joueur de Manchester City qui, à 33 ans, a décidé de tirer sa révérence. Il a notamment fait un communiqué où il dit « Après 14 ans au plus haut niveau avec les éléphants, je suis arrivé au terme de mon aventure avec la Côte d'Ivoire. Je dois passer le témoin aux plus jeunes. » On rappelle que Yaya Touré, c'est 113 sélections avec la Côte d'Ivoire depuis 2004. Évidemment, le grand moment, c'est ce titre conquis en 2015 avec cette génération dorée. Il n'en reste plus beaucoup, évidemment. Beaucoup commencent à prendre leur retraite avec son frère Colo notamment ou encore Gervinho. Évidemment, Didier Drogba qui n'était pas de ce titre en 2015. Et pour en parler, on va en parler avec vous, avec nos spécialistes. J'ai le plaisir d'accueillir un confrère ivoirien, Roger Stéphane C de la radio RJN 96.6. Bonsoir Roger Stéphane.
Bonsoir Nicolas Bruno.
Alors évidemment, qu'en pense-t-on au niveau d'Abidjan, au niveau de San Pedro, au niveau du football ivoirien, de l'annonce évidemment de cette retraite sportive internationale pour Yaya Touré? Et peut-être la deuxième question à Roger Stéphane, est-ce qu'évidemment les déboires avec son club n'ont pas beaucoup pesé dans sa décision?
Bon, le premier sentiment, c'est naturellement les sentiments de déception, mon cher Nicolas, parce que Yaya Touré reste un grand parmi les grands sur ces dernières années. C'était certainement le meilleur joueur africain de ces dernières années, associé à Drogba et à peut-être Samuel Eto'o. Donc, c'est un sentiment de déception partout en Côte d'Ivoire. Vous avez dit San Pedro, Boaké, Korogoma, et j'en passe. Tout le monde dit que c'est le mauvais moment parce que derrière, il y a la Coupe d'Afrique en janvier, ensuite il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde bientôt. Donc naturellement, on a encore besoin de Yaya Touré dans l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire pour une équipe des éléphants C'est sûr, cette dernière sortie n'a pas été véritablement convaincante, notamment sur les éliminatoires de cette CAN 2017. Donc, naturellement, tous les Ivoiriens pensent que Yaya Touré peut encore apporter énormément à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, ça, tout le monde observe qu'ils sont donc les héritiers de Yaya véritablement dans cette équipe nationale, parce que certains se disent qu'il aurait fallu qu'il reste un peu encore pour encadrer les plus jeunes. C'est les Jean-Michel, Kessié Fanfianic, Nguessan Fejé, etc., les encadrer pour leur permettre de reprendre véritablement le flambeau. Mais malheureusement, Yaya est parti. Et puis, effectivement, il y a l'affaire de sa situation à Manchester City en ce moment. Donc, on aurait dit, parce qu'il a refusé de revenir dans l'équipe nationale depuis le sac de 2015, il y a eu des appels de pied auxquels il n'a pas répondu, il n'a pas participé aux éliminatoires. Donc, du coup, maintenant qu'il est en difficulté, certains disent qu'il part parce que s'il vient à l'équipe nationale, on aurait dit que comme il est en difficulté à City, il est venu à l'équipe nationale, eh bien, il y a coupé au cou à toutes les supplications. Il a décidé effectivement de mettre fin à sa carrière internationale. Après 14 ans de présence, pardon, 12 ans de présence en sélection, vous l'avez dit, hein, un peu plus de 100 sélections, 19 buts. Yaya, c'est une grosse fierté. Il a participé à toutes les belles aventures de la Côte d'Ivoire. Le mondial en 2006, le mondial en 2010, le mondial en 2014. Deux finales de Coupe d'Afrique perdues, 2006 et 2012. Et puis, j'ai fait ça en 2015. Oui, Yaya, c'est une grande perte pour le football ivoirien. Mais bon, on espère qu'il reviendra sur la décision parce qu'il a encore énormément à apporter à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire.
Oui, et alors Élisée Oupatine, vous êtes au Bénin, évidemment. On le dit, hein, gros point d'interrogation sur la carrière en club. Hein. On le rappelle pour nos auditeurs, Manchester City est entraîné par Pep Guardiola et l'agent de Yaya Touré s'est plaint ouvertement évidemment du sort de Yaya Touré. Conséquence, grosse sanction, Pep Guardiola qui a décidé de ne plus faire jouer Yaya Touré tant que son agent ne se sera pas excusé. Beaucoup diront que la sanction est un peu lourde, d'autres diront que Pep Guardiola fait le ménage dans son club. Qu'en pensez-vous, Élisée ?
Bon, l'entraîneur est le seul maître hein, de sa formation puisque c'est lui qui maîtrise l'effectif hein, et qui sait quel joueur est en forme et quel joueur pourra lui remporter les trois points de la partie. Et réponse, vous voyez que Manchester City en tête de la première ligue anglaise n'est plus juste ce jour au moment où on parle. Donc c'est-à-dire que l'effectif que Pep Guardiola a, son effectif, et peut lui permettre hein, d'aller très loin dans cette première ligue anglaise. Maintenant, les propos de l'agent, c'est évident, puisque l'auteur est en train de protéger son joueur et ils ont discuté hein, avant le début de la saison et ils se sont dit des choses. Donc, certainement que Pep Guardiola n'a pas voulu à cette condition de l'agent. Yaya Touré aussi n'a pas voulu quitter Manchester City. Il veut travailler, continuer par gagner avec Manchester City qui lui a tout donné. Il a été champion d'Angleterre, il a remporté la coupe la Carling Cup également. Donc, c'est-à-dire que le papa aussi est rentré dans le jeu et a demandé à Guardiola hein, de l'excuser énormément et que Yaya Touré a tellement envie de jouer. Maintenant, Touré, c'est une légende, il faut le dire, au sein de la Côte d'Ivoire.
Oui, c'est une légende. Alors justement, Élisée, comme c'est une légende. Bonne transition, on va prendre un auditeur qui s'appelle John, qui nous appelle du Burkina Faso. Bonsoir John.
Bonsoir.
Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de Yaya Touré, l'icône Yaya Touré qui arrête sa carrière avec la sélection ivoirienne?
Oui, moi je trouve que c'est une bonne initiative. Hein. Parce que, étant jeune, toujours, il décide de ne plus venir en équipe nationale. Et il donne l'exemple aux joueurs internationaux qui sont africains qui sont en Europe là-bas ou en Amérique. Parce que comme ça, là, les jeunes aussi auront l'envie, l'audace de jouer dans l'équipe nationale et puis laisser leur carrière là, à d'autres joueurs pour qu'ils puissent avancer. Quoi.
Eh bien, écoutez,
comme ça, là, on l'a déjà vu à l'extérieur. En Afrique, ici, on l'a vu, il a bien fait. Mais de la manière qu'il décide de laisser là, au moins, il est toujours en forme. Et il n'a pas de... c'est-à-dire, la population ivoirienne ne sont pas fatigués avec lui. Mais comme il décide de laisser, vraiment, il part avec honneur. Quoi.
Très bien. Bah, écoutez, John, voilà. Merci beaucoup hein, pour cet avis. On va poser la question, évidemment, à Amine Birouk. Amine, finalement, est-ce que ce n'est pas un très mauvais timing de l'annoncer à 3 mois de la CAN hein, qui va se dérouler au Gabon au début d'année prochaine?
Non, je ne pense pas.
pense pas. C'est une décision cohérente. Il n'est pas revenu en sélection depuis le sacre des éléphants. Il est en difficulté en club. Je pense que le fait de l'appeler alors qu'il manque de compétition, ou le fait de venir se traîner en sélection alors qu'il est en fin de parcours, aurait été quand même quelque chose de malheureux pour quelqu'un de la trempe de Yaya Touré. Son parcours en club a été exemplaire. Son parcours en sélection a été fort honorable. Et on va pas blâmer Yaya Touré pour cette décision. C'est peut-être même un cas de jurisprudence pour de nombreux joueurs de sélection africaine, expatriés, qui viennent en sélection rien que sur leur nom ou leur réputation, alors que leur rendement à club laisse à désirer. Aujourd'hui, Yaya Touré est cohérent avec lui-même. Il sort par la grande porte puisqu'il a été sacré champion d'Afrique en Guinée équatoriale en 2015. Il ne joue pas en club. Il a des difficultés avec son coach Pep Guardiola. Il doit certainement rechercher un second souffle, soit à travers un prêt ou un transfert pendant le mercato hivernal. C'est l'époque ou c'est la période où il sera où il sera à la recherche d'un club. Je ne le vois pas venir avec la sélection ivoirienne l'esprit qui n'est pas concentré sur une compétition où il devra représenter son pays. Il sera certainement en train de négocier avec son agent un possible transfert ou un possible prêt. Quand on vient en sélection nationale, on doit fermer le téléphone, on plus parler aux agents et on doit se concentrer sur la mission qui est de servir son pays.
Ouais, merci beaucoup. Amine, on va évidemment remercier Roger Stéphane C, hein, qui était avec nous depuis Abidjan pour parler de Yaya Touré. Très très rapidement, on va vous parler de la Ligue des Champions. Demain, les matchs Dortmund-Real Madrid, Sporting Legia-Varsovie, Monaco-Leverkusen, le CSKA Moscou contre Tottenham, Leicester, le champion anglais en titre qui accueille Porto, Copenhague contre Bruges et également Lyon contre Séville et enfin Zagreb contre la Juve qui va à Zagreb pour se relancer face au Dynamo. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, c'était Sporama. On va évidemment remercier Élisée Oumpati Naboïko. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Merci beaucoup Élisée. On va remercier à Casablanca Amine Birouk qui était avec nous de la Radio Mars. Bonsoir Amine.
Merci et bonne semaine.
Merci à tous. On va remercier Georges Léonard Sagno et Fredner Kayemit à la console. Nicolas Pinot à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.